Les radios du CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, vous proposent une série de 12 magazines inédits pour découvrir la poésie et la richesse des auteurs occitans. Des Troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000. Des chants courtois au Fabulous Troubadour, un projet du CRLO.
Aujourd'hui, la poésie lyrique durant le premier âge d'or, avec les chants des Troubadours et des Trobaïrits. De l'Auvergne à la Provence, en passant par le Rouergue et la Gascogne, la langue d'oc est vivante et chante depuis le Moyen-Âge. Souvent méconnue, la langue occitane se déploie sous des formes très variées depuis plus de 12 siècles. Pour l'épisode du jour, nous allons nous intéresser aux troubadours. Qui étaient-ils ? Pour répondre à nos questions, laissons parler deux experts. Marjolaine Raguin, universitaire et spécialiste de la littérature médiévale occitane, et Primaël Mongosi, doctorant en cantologie, mais aussi auteur, compositeur, interprète en langue occitane, entre autres.
Donc, je suis Marjolaine Raguin, je suis maître de conférence à l'université Jean Jaurès à Toulouse en littérature médiévale occitane. Voilà, donc je suis spécialiste de cette première littérature en langue d'oc. J'enseigne aux étudiants de Toulouse et je conduis des recherches donc, sur cette littérature médiévale occitane en lien avec les autres littératures médiévales de langue romane.
Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la poésie lyrique et des troubadours. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste la poésie lyrique ?
Alors, la poésie lyrique, c'est une poésie qui est une poésie chantée, de format bref, donc des textes assez courts, hein, et qui, pour la poésie troubadouresque, donc des troubadours, est un genre qui apparaît pour nous donc en langue romane, hein, c'est pas une poésie en latin, celle-ci, donc en son ancien occitan, si vous voulez, à partir du XIIe siècle, et Guillaume IX d'Aquitaine étant le premier troubadour connu. Voilà, donc cette poésie lyrique, elle regroupe plusieurs genres poétiques et du coup plusieurs types de textes, si vous voulez. Donc on a des chansons qui sont des chansons d'aube, on va les appeler les albas, qui sont des chants de la séparation des amants au petit matin, donc séparés par le retour de l'aube. Des chansons qu'on avait appelé la canso, donc le grand chant courtois pour l'équivalent français. Donc c'est la chanson amoureuse, hein, typiquement, ce qu'on a appelé aussi pendant un temps le verse. Et puis, on a aussi des textes qui sont dialogiques, ce qui est tenso ou jox partit, donc qui sont des textes qui mettent en scène un échange entre deux poètes. Et enfin, il y a un autre grand genre qui est le sirventes, qui va être un texte politique, un texte belliqueux, soit strictement politique, poétique laïque, soit même religieux. Voilà, donc ces chansons, elles peuvent, donc cette poésie lyrique, elles peuvent avoir une thématique plutôt amoureuse, ou disons, une thématique plutôt politique, voire guerrière. Pour cette lyrique occitane, elle se caractérise par trois choses qu'on appelle mot, so et razzo. Donc le choix des mots, du vocabulaire, hein, le travail sur le vocabulaire, le travail sur le so, donc la composition d'une mélodie. Alors, il n'y a pas toujours composition d'une nouvelle mélodie, mais quand même la composition d'une mélodie. Et puis, la razzo, donc le sujet dont le poète va s'emparer.
Primaël, tu es doctorant en cantologie, mais tu es aussi auteur, compositeur et interprète installé à Rodez en Aveyron. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la cantologie ?
Alors, la cantologie, c'est une discipline universitaire, on va dire, qui dépend soit de la littérature française, c'est principalement le cas, soit parfois aussi de la musicologie, et qui a pour objectif d'analyser la chanson. La chanson en tant qu'œuvre d'art spécifique, c'est-à-dire qu'on analyse le texte, bien évidemment, mais aussi la musique et aussi l'interprétation. En fait, pour être plus précis, on analyse comment les trois fonctionnent ensemble. Et c'est ça qui nous intéresse, et ce que le professeur universitaire qui me suit d'ailleurs sur ce doctorat, c'est lui qui a créé cette cantologie, s'appelle Stéphane Hirschi, il est sur Valenciennes, dans le nord de la France, et il insiste là-dessus dès son premier livre de thèse sur l'analyse de la chanson. Une chanson, c'est un mélange, un entrelacement entre musique, paroles et interprétation, et c'est rigolo, et je pense que ça fera le lien avec ce dont on va parler tout à l'heure, c'est exactement la définition qu'au Moyen-Âge, les troubadours donnaient eux-mêmes de la chanson.
Pour commencer, qu'est-ce que c'est les troubadours ?
Alors les troubadours, je pense que dans vos recherches, vous avez dû voir ça. C'est vrai qu'on a une image d'Épinal, du troubadour, qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'étaient les troubadours au Moyen-Âge. On a donc, pour faire simple et vite, quand on dit troubadour dans la langue de tous les jours, on pense à un chanteur itinérant qui va de château en château ou de marché en marché et qui chante, qui divertit. Il se trouve que les troubadours, ça pouvait être ça, mais c'était plutôt ce qu'on appelle les jongleurs, c'est-à-dire des interprètes plus populaires des chansons de troubadour. Et le troubadour, lui, était généralement plutôt quelqu'un d'une classe sociale assez élevée, parfois même seigneur, parfois un prêtre, par exemple, ou un moine, qui du coup n'était plus vraiment prêtre, mais qui s'était formé chez eux. Ça pouvait être aussi un bourgeois, mais voilà, il fallait au moins savoir lire et écrire, il fallait savoir avoir la maîtrise de la chanson. Et donc c'était ce qu'on pourrait dire des auteurs, compositeurs, interprètes, puisqu'ils concevaient des chansons poétiques de très très haute qualité. C'était d'ailleurs considéré à l'époque comme le plus grand art parmi les arts.
Les troubadours sont à la fois...
Marjolaine Raguin.
Les premiers sont des grands seigneurs, clairement Guillaume de Tecquetaine, Geoffrey Rudel, prince de Blaye, Bertrand de Born. Les troubadours du XIIe siècle sont souvent des grands seigneurs. Et en même temps, cohabitent à côté d'eux au rang troubadouresque. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que donc le troubadour va être globalement l'auteur, s'accompagne d'une figure qu'on appelle celle du joglar, donc du jongleur, qui va être celui qui va véhiculer la poésie, qui va aller en donner des représentations dans les cours. Alors, c'est une bipartition qui est assez artificielle en réalité, parce que vous avez des jongleurs qui composent la poésie aussi. Bon, globalement, le troubadour, les premiers troubadours sont de haut lignage, de haute lignée. C'est pas tout à fait vrai, puisque par exemple, troubadour comme Marc Abru, dont on ignore à peu près toute la généalogie, qui est un poète extrêmement fort, c'est un très grand poète, et du XIIe siècle, donc de ses premières générations troubadouresques, n'est pas lui de haute lignée. Donc voilà, globalement des grands seigneurs. Au XIIe siècle, quelques très bons poètes qui sont de basse extraction. Pour le XIIIe siècle, il y a une recombinaison, puisque vous avez une émergence des marchands et des fils de marchands, de bourgeois, au rang troubadouresque. Mais globalement, de toute façon, c'est assez compliqué, parce que à part ceux qui sont justement de haute lignée, on ne sait pas grand-chose en réalité de la vie de ces poètes. Ils ont parfois un nom, parfois ils n'en ont pas. Sociologiquement, je dirais quand même que la fonction de troubadour est celle de quelqu'un de noble extraction et celle de jongleur, de personnage plus populaire, disons. C'est pas toujours vrai. Je reviens sur l'exemple de Marc Abru. Par contre, le jongleur, lui, ne sera pas de haut lignage, ça c'est clair.
Oui.
Et le jongleur va être celui qui donne la représentation de la pièce, tout en ayant bien conscience que certains jongleurs composent. Voilà. Ils n'accéderont pas au statut de troubadour. Il y a clairement une gradation, hein. Même dans certains textes qui peuvent être clairement marqués, hein, avec une dépréciation claire. Le poète dit à un tel que lui, c'est pas un troubadour, c'est simplement un jongleur. Donc il y a une forme de mépris de classe, hein,
de classe
qui s'exprime.
Oui. D'accord. Et malgré les différences de classe, est-ce qu'ils avaient le même mode de vie? Est-ce que c'était un mode de vie plutôt mouvant? Est-ce qu'ils bougeaient beaucoup? Ou est-ce qu'ils restaient dans un territoire?
Alors, ça dépend des personnes, je dirais. C'est-à-dire, l'homme médiéval est foncièrement assez mobile, contrairement aux représentations qu'on peut avoir. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes un grand seigneur, grand poète, comme Bertrand de Born, par exemple, qui est un troubadour du XIIe siècle, plutôt troubadour de la guerre, d'ailleurs, vous allez vous déplacer, mais vous n'allez pas vous déplacer pour les nécessités de votre art, au sens où vous cherchez un mécène. Vous allez vous déplacer parce que, vous allez rendre visite à d'autres seigneurs, éventuellement votre suzerain. Ça ne vous empêche pas d'exercer votre art là où vous êtes, dans la cour dans laquelle vous séjournez. C'est autre chose d'être un poète professionnel comme Peyre Cardinal, par exemple, de vivre de votre art et donc du mécénat que vous en retirez, et de vous déplacer ou d'aller vous installer dans une cour. Pour Peyre Cardinal, c'est clairement la cour des comtes de Toulouse. Et puis, dans cette cour, d'être presque un poète officiel, en quelque sorte, et de bénéficier du mécénat du seigneur qui va vous accueillir. Celui qui se déplace vraiment beaucoup, c'est le jongleur. Vous avez des poètes qui ont des troubadours, donc qui ont des jongleurs attitrés, un ou plusieurs jongleurs attitrés, d'autres qui n'en ont pas d'attitrés, et donc c'est le jongleur comme figure, si vous voulez, se constitue un répertoire poétique de quelques auteurs qui plaisent et qui sont en vogue aussi, et puis donnent des représentations dans tel ou tel cours de poésie. Et du coup, lui, il va clairement tirer sa subsistance de l'accueil, du bon accueil qu'on va lui faire, et aussi du fait de se déplacer. Voilà. Donc selon qui on est dans toute cette sociologie de la poésie, enfin, des hommes concernés par la poésie troubadouresque médiévale, eh bien on va se déplacer plus ou moins, dans des délais plus ou moins courts aussi. Voilà. Mais globalement, il faut penser que ce sont des gens qui sont assez mobiles. Mais pas cette idée du poète enfermé dans son château qui composerait et puis qui donnerait ses textes à diffuser. Ils sont plus mobiles que ça. De toute façon, ce qui fait l'humanité, c'est la relation. Et donc, ce sont des gens qui sont en relation avec les individus de leur milieu, disons, donc d'autres seigneurs ou qui ont besoin de s'approcher des cours seigneuriales pour donner représentation de ces poésies, puisque ces poésies, elles sont représentées essentiellement lors de dîners, c'est une poésie de cours vraiment, lors de dîners, éventuellement sur des places publiques, voilà, lors de grandes réunions, d'organisation de tournois, on a des poètes invités et des performeurs. Et le jongleur qui chante et qui joue de la musique n'est pas celui du tout qui jongle, hein. Il faut se départir de cette idée du fou du roi, on n'est pas du tout là-dedans.
C'est écrit dans vos pages, un mieux et bien avant nous, Rockstar del Mediodage.
Les troubadours, effectivement, étaient très mobiles. Sur quel territoire étaient-ils présents?
Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, les anciens territoires de la Languedoc, hein, donc qui vont jusqu'à Poitiers, qui vont, bah, c'est un peu, après, c'est, à part la frontière nord, disons, c'est un peu comme aujourd'hui, qui vont jusqu'au nord de l'Italie, au nord de l'Espagne, disons. Ceci étant, en fait, cette poésie troubadouresque médiévale en occitan, il faut bien l'apprendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une littérature romane, et donc avec une certaine perméabilité, que ce soit vers le nord, l'espace français, on a toujours tendance à se dire, bon, les Catalans, d'accord, les Espagnols, à la limite, les Italiens, d'accord, mais surtout pas les Français, non, non, c'est une bêtise que de penser comme ça. Il y a une perméabilité, y compris avec la lyrique française, hein. Avec l'Italie, et l'Italie du Nord particulièrement, mais du Sud aussi pour la cour de Sicile. Aussi, je vous rappelle que Dante se prenait pour le dernier des troubadours, hein. C'est clairement la généalogie politique dans laquelle il se place. La poésie galaïco-portugaise, donc, est clairement liée à la lyrique troubadouresque et la lyrique romane en général. Et quant à la cour d'Aragon, donc, l'espace, somme toute, de la Catalogne d'aujourd'hui, et particulièrement au nord de la Catalogne, eh bien, on est dans un espace dont la langue poétique est l'occitan jusqu'au XIIIe siècle. Il y a trois temps que j'apprécie, sur lequel je travaille, que j'aime beaucoup, qui est Guillaume de Bergueda. Guillaume de Bergueda, c'est un baron pyrénéen, mais clairement de l'autre côté des Pyrénées. De toute façon, les Pyrénées n'ont jamais été une frontière, hein. C'est une zone de passage, clairement. Des seigneurs possessionnés au nord des Pyrénées le sont aussi au sud. Les lestives ou les zones de pâturage hébergées par un berger de Montaillou estivent de l'autre côté de passent de l'autre côté des Pyrénées pour faire estiver. Ils vont se louer aussi à des grands propriétaires terriens de l'autre côté des Pyrénées. Donc il y a vraiment une perméabilité. Et donc Guillaume de Bergueda, le poète du dernier quart du XIIe siècle, eh bien, c'est un troubadour catalan, mais clairement de langue occitane. Cette lyrique, elle s'étend au-delà de ce qu'on peut penser l'Occitanie, la grande, pas la région administrative actuelle. Et puis, elle est en lien, même recomposée, même dans d'autres variétés du roman, on va dire, avec toutes les poésies romanes de l'époque.
On parle des troubadours, mais y avait-il des femmes troubadours et est-ce qu'elles étaient nombreuses et reconnues?
Oui, il y a des femmes poètes, qu'on appelle les troubadrices. Nombreuses, non. Quelques-unes. Reconnues, oui, pour certaines, la comtesse de Die, notamment. Mais peu de textes nous sont parvenus, d'abord. Donc c'est en ça qu'on peut dire qu'elles sont pas très nombreuses, parce que peu de textes nous sont parvenus. Peut-être qu'elles étaient plus nombreuses, et voilà. On a quelques textes à jeu lyrique féminin, donc c'est-à-dire que le jeu qui s'exprime, le jeu yeou, première personne du sujet lyrique, donc dans la poésie, est féminin. Ceci étant, vous avez aussi des textes à jeu lyrique féminin composés par des hommes, de sources sûres, donc il peut y avoir un jeu JEU, cette fois poétique, là-dessus aussi. Et beaucoup de textes sont aussi des anonymes. Anonymes au sens où on est incapable de mettre le nom d'un auteur ou d'une autrice sur ces textes-là. Voilà, donc un petit corpus, quelques troubadourices connues, donc avec un nom, qu'on puisse rapporter leur poésie, et une certaine méfiance quand même pour les anonymes, puisque certains poèmes à jeu lyrique féminin sont en fait l'œuvre d'hommes. Mais elles existaient, tout à fait.
Est-ce que les troubadours ont évolué? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a un héritage des troubadours?
Alors, il y a certainement un héritage.
Primael Mongosi.
Mais ceci dit, le mouvement des troubadours, c'est un mouvement délimité dans le temps, qui naît à peu près à la fin du XIe siècle, et qui s'étale surtout sur le XIIe et le XIIIe siècle. Donc, en terre d'oc, en terre occitane, qui correspond grosso modo au sud de la France, plus la Catalogne actuelle. À l'époque, hein, le catalan était intégré à l'occitan. et un petit bout d'Italie. Voilà. Et sur cette terre-là, pendant à peu près 2 siècles, on va avoir ce grand mouvement. Et on considère qu'il y a un événement historique qui vient bouleverser et la société, et du coup aussi ce mouvement qui était central dans la société, c'est la croisade contre les cathares, ou on appelle aussi croisade contre les albigeois, qui va déstructurer énormément les terres centrales occitanes.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le rôle des troubadours lors de cette fameuse croisade, et qu'est-ce que c'est que cette croisade ?
Alors la croisade des Albigeois,
Marjolaine Raguin.
La croisade contre les Albigeois, c'est une croisade avec tous les attributs de la croisade au niveau du salut, promulguée par le pape Innocent III, et donc qui va s'étendre de 1209 à 1228-29. Elle a pour objectif l'éradication de l'hérésie en Languedoc, donc l'hérésie c'est ce qu'on pourrait appeler un christianisme déviant, si vous voulez, donc une dissidence chrétienne, qui s'était répandu donc en Languedoc essentiellement entre Toulouse et Béziers. Elle a toute une série de conséquences politiques. La première d'entre elles, c'est le rattachement définitif et efficace du Languedoc à la couronne de France sortie des griffes, on va dire, du roi d'Aragon. Et chacun y a trouvé son compte, ça c'est sûr. Donc c'est la mort de Pierre II d'Aragon à Muret qui va mettre un coup d'arrêt à l'expansion aragonaise en Languedoc, hein, puisque je vous rappelle que le roi d'Aragon était possessionné à Montpellier, il était le suzerain du vicomte Trincavel, et à la veille de la bataille de Muret, il était devenu le suzerain du comte de Toulouse aussi. Donc il avait clairement un royaume qui enjambait les Pyrénées et qui englobait une bonne partie du quart nord-ouest de l'arc méditerranéen. Les barons français y ont un peu joué leur partie aussi, et l'Espagne, qui est en fait pour l'époque vraiment juste le nord de l'Espagne, le reste est un territoire mort. Donc cette croisade, pour en revenir au rôle des troubadours, ils vont avoir des rôles multiples là-dedans, essentiellement qu'on pourrait qualifier de rôle de résistance, quand même une guerre qui dure 20 ans, et donc ils vont composer de la poésie de contestation de la croisade, évidemment, de remobilisation des forces languedociennes et provençales, donc de Languedoc, disons. Alors il ne faut pas se dire que c'est la France contre les Occitans, parce que vous avez précisément des Occitans qui sont croisés, hein, les Auvergnats notamment, donc c'est plutôt une guerre de l'Église et du roi de France contre certains seigneurs du Midi, hein. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, c'est un des moments de l'histoire qui ont façonné clairement la géographie ou la géopolitique de notre monde actuel. Il y a un avant et un après dans la définition des territoires et l'expansion des nationalités ou des nations.
Et donc, clair. Dans ce conflit, les troubadours avaient donc un rôle de contestation.
De contestation, clairement, oui. Ils ont composé pour critiquer l'alliance des clercs et des Français.
Est-ce qu'ils étaient porteurs de messages également, peut-être, pendant la guerre ? Est-ce qu'ils avaient un rôle de messager ?
Le messager, c'est un métier à part. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours sur les routes, qui a priori...
Et peut-être de nouvelles, de nouvelles de la guerre ?
Transmettre les nouvelles, oui, par contre, transmettre les nouvelles, oui. Mais c'est de fonction double, c'est-à-dire que la nouvelle qui se transmet par la poésie, c'est une nouvelle qui est appelée à durer, puisque la poésie, elle a une, par sa forme, hein, et par ce fait que ce soit une poésie et pas juste une information, elle s'inscrit dans un temps long, quand même. Donc, c'est une nouvelle marquante. Alors, bien sûr, si vous apprenez la nouvelle en écoutant le poème pour la première fois, ben, ça a cette fonction de message. Mais sinon, c'est plutôt une itération, une réitération de l'événement. Maintenant, la croisade albigeoise, elle donne lieu à la composition de la chanson de la croisade albigeoise, qui est, pour faire simple, un texte biparti, un texte long, donc on n'est plus dans cette lyrique, hein. Du texte court, mais ce sont un texte narratif long d'à peu près 10 000 vers qui va se faire vraiment chronique de la croisade et de la résistance à la croisade.
Et donc on considère que cet événement historique
Primael Mongosi,
en ayant un tel impact sur une société qui elle se vivait comme une société cosmopolite, une société dans laquelle justement toutes les religions étaient acceptées, dont les cathares, mais pas que, il y avait aussi des juifs, il y avait aussi des musulmans, peut-être qu'on en parlera avec notamment tous les échanges qu'il y a eu avec l'Andalousie, qui ont eu certainement une influence sur la société et sur le mouvement des troubadours, mais une fois qu'il y a cette guerre-là qui est une guerre qui ensuite s'ensuit une conquête, la conquête du Nord par ce que l'on appelait à l'époque les Français, et qui, imposant de nouvelles règles et notamment créant l'Inquisition, vont mettre fin finalement à ce vivre ensemble qui permettait l'épanouissement de cette poétique des troubadours. Alors ça va durer encore un petit peu après, mais ça va finalement mourir assez vite. Et pour revenir au début de ta question, est-ce qu'il y a un héritage ? Oui, je pense en revanche qu'il y a un héritage. Alors comme on l'a dit au tout début, cet héritage il est parfois un peu faux. On a un peu une image erronée des troubadours, mais je pense quand même que l'importance même du mot troubadour dans les chansons actuelles, par exemple, prouve qu'il en reste quelque chose. Et puis, il faut dire que depuis le XIXe siècle et les romantiques, on a redécouvert petit à petit les troubadours. et que voilà, des artistes ont pu s'en saisir un peu plus tard, et notamment des artistes occitans, bien entendu, même s'il faut savoir que les troubadours, à leur époque, ont eu une influence sur toute l'Europe occidentale. Dans le nord de la France, par exemple, les trouvères, au Portugal, les troubadours, en Italie, les trovatori, tous ces gens-là vont imiter les troubadours un peu plus tard, après l'avènement des troubadours occitans. Et donc, leur héritage, il est pluriel, il est spécifiquement dans la société occitane, par, eh bien, on va dire, l'influence actuelle et le fait de se reconnaître issu des troubadours, mais il a aussi une influence dans toute la chanson d'auteur, en fait, je pense, au moins du monde latin.
Et toi-même, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, est-ce que tu te sens toi-même un petit peu une sorte d'héritier des troubadours dans à la fois ta chanson ou ta musique et tes paroles ?
Oui, certainement. Alors voilà, moi, en plus, je fais partie, comme je disais, de ces auteurs, chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes de langue occitane. J'écris pas uniquement en occitan, mais aussi en occitan. Donc forcément, il y a cette référence-là. Les troubadours, je les ai découverts justement quand je m'intéressais à l'occitan au lycée. Donc très vite, je me suis quand même imprégné de cette culture-là. Donc je pense que par militantisme et volonté de préserver notre culture occitane, forcément, il y a le passage par l'âge d'or de la littérature occitane que sont les troubadours. Mais je pense aussi, et finalement mes études et mes recherches en cantologie me permettent de valider cet aspect-là, que cette vision qu'ils avaient de la chanson, donc cet entrelacement de musique, de chant, de paroles et d'interprétation, donc où on va dire que l'importance d'un texte très poétique, mais aussi d'une mélodie très travaillée, sont des choses qui, moi, me parlent personnellement, que finalement, je trouve que parfois, pour donner un exemple, dans la chanson française, on a tendance à privilégier le texte ou à penser qu'on privilégie le texte, ce qui est un peu dommage, il me semble, pour le côté chanté. On a eu peu de grands chanteurs français, alors que dans d'autres langues, notamment du sud, côté espagnol, portugais, brésilien, on a des plus grands chanteurs. Et en même temps, de fait, si on prend plutôt le monde anglo-saxon, on a tendance un peu à négliger les paroles au profit de la musique. Donc moi, je trouve très intéressant cette valorisation identique de la musique et des paroles, et j'essaye, à mon niveau, de faire ça dans mon travail artistique.
À propos de ton travail, on va d'ailleurs écouter un extrait d'un de tes titres, Bendestiu.
Et quand solo le jour estio, mais ben un bende lui per la cortina. Ai, au cot dalle malisa, ai, au cot tocca la brisa, chi è mue. Am duas alas de las irundas e dos brembes amassas qui ebula din lo succu lauseda e si servirai de lui i ciascun sidic gabe coma di niela un si angora duchine bella. Danzana di Aisse Aren si dimola, non di Giovanni Tales già chi nola.
On vient d'écouter Vendestiu de Primael Mongosi. Tu veux nous en parler un petit peu, Primael, de Vendestiu ?
Oui, alors Bendestiu, on dit.
Ah, pardon.
C'est le vent d'été. C'est une chanson qui s'inspire de la poésie des troubadours, et notamment de João Freire Rudel, un grand troubadour connu pour avoir chanté L'amour de loin. Et cette chanson, je la chante dans un duo que j'ai avec un chanteur basque qui s'appelle Panchis Bidart. Et c'est pour ça que pour nos auditeurs qui viennent d'écouter la chanson, vous avez eu un passage dans une langue très étrange, autre que l'occitan, et c'était donc en basque. Et notre duo s'appelle Elimberi. Elimberi, c'est le nom ancien de la ville d'où je viens, Hoche, dans le Gers. Et il trouve que ce nom-là, en fait, était un nom basque, parce qu'avant d'être latinisé, nos ancêtres étaient les mêmes que ceux des Basques.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes chansons et toutes tes musiques, si ça nous a plu ?
Oui, alors la plupart de mes chansons sont sur Internet. On peut les écouter sur YouTube en tapant Primael Mongosi, M-O-N-T-G-A-U-Z-I. Et puis pour les Ruthénois, parce qu'on est quand même une radio locale,
et oui.
Il y a deux de mes albums, mon album Languiment et un album en duo avec le musicien Chokri Trabelsi, un duo qui s'appelle Nubalocha, qui se trouve à la médiathèque.
Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de Père Cardenal ? Est-ce qu'il a des particularités en tant que poète, en tant que troubadour ? Et qui était-il ?
Donc Peyre et Cardenal.
Marjolaine Raguin.
Donc Pierre Cardenal, Peyre et Cardenal en occitan. C'est un troubadour, il est né vers 1180 et il est mort en 1278. Donc c'est déjà quelqu'un qui a vécu presque 100 ans. Il naît au Puy-en-Velay, hein, donc qui est aujourd'hui le Puy-en-Velay. Et il meurt certainement à Montpellier. Donc il est fils hein, de chevalier, donc c'est quelqu'un de la moyenne noblesse, je dirais. Il est placé par son père pour être chanoine. Et puis il va quitter les ordres à une vingtaine d'années pour exercer l'art poétique et va s'adresser d'abord à la cour du comte de Toulouse, hein, dont il va être un poète habituel. Il va beaucoup composer contre les clercs et contre les Français, contre la croisade et puis contre l'Inquisition après. Il va terminer son parcours poétique, si vous voulez, et son parcours de vie à la cour de Jacques Ier d'Aragon, donc à Montpellier. Voilà, c'est un poète essentiel. En fait, il naît à la fin du XIIe siècle, 180 à peu près, mais c'est vraiment un poète du XIIIe siècle. Hein. Il accompagne vraiment les événements qui vont toucher la profonde modification du Languedoc et de l'ère toulousaine au cours du XIIIe siècle. Donc clairement la croisade albigeoise, puis le changement sociologique qui va s'opérer avec le remplacement d'une partie de la seigneurie occitane par autochtone par des seigneurs français. Un profond changement aussi d'une polarisation autour de la maison seigneuriale de Toulouse ou d'Aragon pour un retournement vers une polarisation plus française, donc tournée vers le nord, ou la cour de Provence où il y aura un seigneur issu de la maison de France aussi. Voilà, donc il assiste à tout ça et il est l'auteur d'énormément de poésie conservée. Donc c'est un très grand poète aussi pour l'étendue du répertoire conservé. Et c'est un poète extrêmement féroce. Moi, j'apprécie énormément Peyre et Cardenal. D'abord, il est très fort. Et ensuite, il sait être acide. Et comme il a reçu une formation au canonica, eh bien, donc de chanoine, il sait critiquer le clergé, notamment. Donc c'est essentiellement un auteur de Cervantes, hein, donc de poésie politique. Il sait critiquer le clergé avec des arguments qui sont plutôt adroits, en fait. Voilà, il sait critiquer les ordres religieux, il sait critiquer leur mauvaise conduite. Voilà. Il a une formation religieuse importante, hein, puisqu'il était destiné à être chanoine. Eh bien, il manie très bien ces arguments-là dans sa critique du clergé.
On va écouter tout de suite « Tot farai una demanda » du père Cardenal.
« Tot farai una demanda. A qui respondre bieglio? Si abers ni terro grande, anegun homme aundo. Che ubeilus plus rix es plus grans, che tolun cent milio aitans, che ens aquil, che nun arrendo. Num buei esse reis d'Irlando, per tal che uemple ni tuelio, castel ni tur ni barrando, ni che l'autre gen confundo. Chi per diu per altrui abans, ni sarmo per altrui besans, rasus es che mal l'emprendo. Rasus vol e drets comando, che chi semeno che quello, calche semenso che spando, hai tal fruc cum ben che tundo. E chi fai l'usenuez, nils dans, certs sio che all'autre lans, pen rodan, can che attendo. Et en français, la traduction, je ne ferai qu'une seule demande à quiconque voudra y répondre. Fortune ou grande terre, cela est-ce suffisant à nul homme? Car je vois les plus riches et les plus grands qui volent cent milliers de fois autant que ceux qui n'ont pas de revenus. Je ne veux pas être roi d'Irlande si c'est pour enlever et voler château, tour ou rempart et ruiner les autres gens. Celui qui perd Dieu pour gagner des remparts et s'arme pour avoir les besoins d'autrui, il est bien légitime que mal lui en prenne. La raison veut et le droit commande que celui qui sème cueille. Quelques semences qu'il épande, pareil fruit, il convient qu'il récolte. Et c'est lui qui cause chagrin et dommage, il peut être certain que c'est lui, au prochain coup de la fortune, qui éprouvera du dommage aussi longtemps qu'ils doivent attendre.
C'était les trois premières strophes de Tot farai una demanda du père Cardenal, lu par Primael. Primael, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi parle ce texte?
Oui, alors c'est pas le père Cardenal parce qu'il n'était pas prêtre, c'était Peyre en fait, c'est son prénom, voilà.
Ah,
Pierre en fait, tout simplement.
D'accord.
Et alors, justement, ce Peyre Cardenal, qui est un des troubadours qui a vécu certainement le plus longtemps, il s'approche de 100 ans dans sa vie, et il a connu, lui, le siècle de ces fameuses persécutions pendant la croisade des Albigeois. Liégeois. Et puis c'était un observateur de sa société, un observateur très critique. Et c'est certainement pour ça qu'on l'a retenu jusqu'à aujourd'hui, parce que ces critiques de la société de l'époque, eh bien malheureusement, elles s'appliquent encore en grande partie à notre société actuelle. Et donc dans cette chanson, eh bien, il s'agit de critiquer les puissants, les riches, qui profitent de leur situation et de leur place pour causer du tort financier, mais aussi du tort moral aux personnes qui sont en dessous. On sait que c'était une société féodale, hein, dans laquelle les paysans travaillaient pour des seigneurs. Et alors c'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'il y a une petite pique qui pourrait être considérée comme une première critique de cette société féodale, où on voit dans la troisième strophe, il est normal, hein, que celui qui sème cueille. Donc ici, on a une référence au fait que ben, ceux qui travaillent finalement, c'est pas eux qui récoltent, ou ça va pas pour eux, hein, c'est le paysan travaille pour le seigneur. Donc il y a une certaine revendication un peu masquée, on va voir pourquoi, une critique de la société féodale, mais je dis un peu masquée parce qu'il développe son idée. En fait, on se rend compte que c'est une métaphore de voilà, que celui qui sème la misère récolte la colère, comme on dit dans les manifs, et c'est exactement ce qu'il dit là, mais on peut se dire que cette première phrase est aussi une critique de la répartition injuste des tâches et du travail et des privilèges, en fait, dans la société féodale.
Et oui, ça en fait un texte encore très moderne et très contemporain.
Tout à fait. Et on appelait ce genre de chansons des sirventes, hein, qui avaient pour objectif de critiquer. C'est un peu des chansons engagées, si vous voulez.
Merci, Primel.
Merci à toi.
Merci beaucoup, Marjolaine, merci pour toutes ces précisions et toutes ces informations.
Je vous en prie, merci à vous.
Des troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000, proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.